7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
La radiographie du coronavirus, et oui, c'est une joie et une souffrance. Nicolas Martin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous vous demandez si on est bien sûr de l'origine de ce coronavirus.
Alors, vous savez que c'est évidemment pas moi qui me le demande vraiment, mais en tout cas, un certain nombre de publications dont, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un certain film que l'on dirait complotiste, qui
non,
a reçu
je vois
une
pas
certaine
de quoi
audience.
Vous voulez parler.
N'en parlons plus, mais en tout cas, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est surtout une interview qui a été relayée dans plusieurs médias tout à fait sérieux, des journaux scientifiques comme le journal du CNRS, d'un virologue lui aussi tout à fait sérieux qui s'appelle Étienne de Crolly et qui dit notamment, je le cite, « Tant qu'on n'aura pas trouvé l'hôte intermédiaire, cette hypothèse d'un échappement accidentel d'un laboratoire ne peut être écartée par la communauté scientifique. » Et voilà donc le retour du virus créé en laboratoire. C'est pour ça qu'il nous a semblé important ce matin de refaire un point, d'autant que, comme vous allez le voir, en effet, tout n'est pas complètement établi.
Et oui, alors, vous allez me dire que ce pauvre pangolin n'y est peut-être pour rien.
Alors, ma foi, je vais vous dire ce qu'on sait pour le moment, Guillaume. Ce qui est confirmé, c'est que donc le virus qui provoque la Covid, c'est le SARS-CoV-2. Parce que le CoV-1, vous le savez, c'est le virus qui a provoqué l'épidémie de SRAS en 2003, qui est un coronavirus également. Or, pour le CoV-1, on a toute la chaîne. La chauve-souris d'abord, comme pour le CoV-2, puis l'hôte intermédiaire, c'était la civette palmée, qui est un petit mammifère qui vit en Asie, avant de passer à l'homme. Pourquoi un hôte intermédiaire? Pourquoi est-ce que ça ne passe pas directement de la chauve-souris à l'homme? Eh bien parce que le virus, en changeant d'espèce, il y a ce qu'on appelle des phénomènes de recombinaison. La recombinaison, c'est exactement ce qui se passe avec les gènes humains. Par exemple, si vous avez la couleur des cheveux de votre père et la couleur des yeux de votre mère, eh bien en fait, les deux génomes se sont mélangés et se sont recombinés pour aboutir à une nouvelle combinaison qui est la vôtre. Mais c'est la même chose qui se passe avec les virus et avec les traits pathologiques. D'accord. Le virus mute et il va emprunter différentes caractéristiques de contagiosité ou de virulence, par exemple, à chaque espèce. Et à la fin, ça va faire un assemblage qui va permettre, in fine, d'être compatible et donc de passer à l'être humain. Pour le CoV-1, donc je vous le dis, c'était la civette palmée, l'hôte intermédiaire. Pour le MERS-CoV, c'était le dromadaire. Et pour le CoV-2, eh bien, on pensait que c'était le pangolin.
Oui, mais ce n'est plus alors le pangolin.
Eh bien, alors, il y a des doutes. Ce qu'on sait, c'est que le SARS-CoV-2 de l'être humain est très très proche de celui de la chauve-souris à 96%, mais beaucoup moins de celui du pangolin, entre 85 et 90%. Mais dans le virus de la chauve-souris, il y a un problème, c'est qu'il y a un acide aminé, un petit nucléotide, comme une pièce de puzzle, disons, qui ne s'emboîte pas chez l'être humain dans les récepteurs. Il y a une clé qui ne rentre pas dans la serrure, si vous voulez. Donc, le passage direct de la chauve-souris à l'être humain est impossible. Or, chez le pangolin, même s'il y a moins de similarités, en revanche, le virus a muté et la pièce, justement, la clé, rentre bien dans le récepteur. C'est la même pièce de puzzle, si vous voulez, que pour l'être humain. C'est pour ça qu'on a pensé que le pangolin était l'hôte intermédiaire, qu'il avait pris cette pièce de puzzle-là pour l'ajouter à son génome, ce qui fait que, en recombinant tout, ça pouvait rentrer chez nous. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a une autre pièce de puzzle essentielle à l'infection des cellules humaines que l'on retrouve ni chez la chauve-souris, ni chez le pangolin. Conclusion donc, c'est que contrairement au CoV-1 ou au MERS, on ne connaîtrait pas encore vraiment l'hôte intermédiaire précis qui a permis le passage de la chauve-souris à l'être humain. Or, le problème, c'est que si cet hôte intermédiaire, si cet animal comme la chauve-souris ne déclare pas d'infection, la chauve-souris ne tombe pas malade du SARS-CoV-2, eh bien peut-être que, in fine, on n'aura pas les moyens de retrouver cet hôte intermédiaire et qu'on ne le connaîtra jamais.
Bon, bah alors ça signifie que le virus vient peut-être d'un laboratoire, Nicolas?
Eh bien, Guillaume, théoriquement, et jusqu'à preuve du contraire, il est vrai que scientifiquement, si on approche ça d'un regard scientifique, on ne peut pas à 100% écarter cette hypothèse. Mais néanmoins, à l'heure actuelle, pour le moment, il n'y a pas un seul indice qui vienne étayer cette hypothèse du laboratoire. Ce qu'on peut dire, c'est que, d'une part, par exemple, s'il y avait eu des manipulations génétiques faites par l'être humain, on l'aurait vu tout de suite. Pour le dire vite, pour construire un virus, il faut un squelette, une architecture. Or ici, on voit bien que le virus s'inscrit dans une histoire d'évolution génétique. On peut remonter jusqu'à la chauve-souris, on peut voir qu'il a muté chez le pangolin, on peut voir qu'il infecte, par exemple, une autre catégorie d'animaux qui sont les félidés. On voit qu'il y a une histoire évolutive. On peut même évaluer, selon une étude parue dans le journal Nature, qu'il aurait commencé à se différencier le SARS-CoV-2 humain de la chauve-souris il y a entre 40 et 70 ans, probablement même assez précisément grâce à l'horloge moléculaire, on peut dire autour de 1969. Deuxième chose, On pourrait dire que le virus, s'il n'a pas été créé de toute pièce de l'être humain, aurait pu être étudié par exemple en laboratoire, et puis un animal se serait échappé ou une personne contaminée serait sortie du laboratoire et ça aurait débuté l'épidémie. Mais une fois de plus, comme je vous l'ai déjà dit, la vie, c'est pas la vie réelle, notre vie, la réalité, c'est pas le fléau Stephen King
vous
ou
croyez
le film Contagion. Non, malheureusement, ou tant mieux peut-être plutôt, parce que dans le fléau, ça se passe pas très bien. C'est pas en tout cas un événement, c'est pas une personne ou un animal qui va lancer une épidémie mondiale. Si on remonte l'histoire épidémiologique, on voit bien qu'il n'y a pas eu un, mais plusieurs départs épidémiques pour le SARS-CoV-2 avant celui qui a fini par se globaliser. Comme nous le rappelle Yves Godin, qui est virologue et directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie intégrative de la cellule de l'Université de Paris-Saclay, que nous avons interrogé, des passages de l'animal sauvage à l'homme, il y en a tout le temps. Il y a une étude qui a été faite sur des populations en Chine qui vivent à proximité de grottes où sont les chauves-souris, et on trouve 0,6% d'entre elles qui présentent des anticorps naturels contre les coronavirus. C'est la preuve que les contaminations naturelles se font en fait en permanence. Pour conclure, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un principe en science qui est très important, qui s'appelle le rasoir d'Occam. On appelle ça aussi le principe de parcimonie ou d'économie. C'est-à-dire que face à deux hypothèses concurrentes, et en l'absence de preuves discriminantes solides, il faut toujours privilégier la plus simple. Ici, en l'occurrence, on a tous les indices épidémiologiques, phylogénétiques, même en l'absence de preuves formelles, eh bien tous ces indices nous pointent vers une origine naturelle. Pourquoi alors se compliquer la vie à imaginer qu'il y aurait un accident de laboratoire ou un complot secret qui aurait fini par contaminer l'intégralité de l'humanité?
Et allez Nicolas, on termine avec la fake news de la semaine à propos des vaccins de Pfizer et Moderna, des vaccins à ARN qui pourraient rentrer dans nos cellules et modifier notre code génétique et celui de nos futurs descendants.
Eh bien non, pas du tout en fait, absolument pas et dans aucun cas, puisque le SARS-CoV-2, vous le savez peut-être, c'est un virus à ARN. L'ARN, c'est l'étape intermédiaire entre l'ADN et les protéines qui vont être produites. C'est une sorte de traducteur qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc le SARS-CoV-2 n'a pas d'ADN, c'est directement de l'ARN. Et cette traduction de l'ARN en protéines, c'est ce qui provoque les effets, les protéines. Ça ne se passe pas dans le noyau de la cellule, ça se passe à l'extérieur du noyau. Le virus, c'est donc le brin d'ARN messager qui va être utilisé pour répliquer le virus dans le vaccin. Il ne va pas pénétrer dans notre code génétique, il ne va pas rentrer dans le noyau et se mélanger à notre ADN, il reste à l'extérieur dans ce qu'on appelle le cytoplasme, il se fait transcrire en protéines et puis ensuite il est naturellement dégradé par les outils de la cellule. Alors vous allez me dire, le VIH, c'est le VIH qui provoque le sida, hein, c'est aussi un virus ARN et lui il rentre dans le code génétique. Oui, mais le VIH, ça n'est pas un coronavirus, c'est un rétrovirus. Ça n'est pas du tout le même type de virus. Pas d'inquiétude donc, si la sécurité vaccinale de ces vaccins à ARN de Pfizer et Moderna est avérée par la suite des études et des essais cliniques, vous pouvez aller vous faire vacciner en toute tranquillité pour vous et pour vos éventuels futurs descendants.
Merci beaucoup Nicolas Martin, puisque vous avez évoqué Stephen King, Fléau de Stephen King, qui est un livre que nous affectionnons tous les deux dans un genre de littérature proche. Dans quelques instants, il va être question d'un auteur que vous adorez, Nicolas, Philippe Cadic, et nous serons en compagnie d'Emmanuel Carrère, parce que Emmanuel Carrère n'est pas seulement l'auteur de Yoga, et son dernier roman, il a aussi écrit une incroyable biographie de Cadic, Je suis vivant et vous êtes mort. Allez, il est 7h22 sur France Culture.